présenté ce soir par Isabelle Souquier. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir. Un harcèlement moral jusqu'au boutiste, condamnation de France Télécom 10 ans après une vague de suicides de salariés d'entreprise. L'incertitude sur le trafic ferroviaire, pendant les fêtes, il sera perturbé, mais on attend de savoir si la CFDT Cheminots appellera à une trêve pour la période de Noël. On en a beaucoup entendu parler avec le cas de Levoix, la haute autorité pour la transparence dans la vie publique, institution pour l'instant sans président. On vous explique pourquoi dans un instant. Journée historique en Grande-Bretagne, le Brexit sur les rails et pour la première fois à la Chambre des communes. On se souvient de la vague des suicides des salariés de France Télécom, c'était il y a 10 ans maintenant. L'entreprise vient d'être condamnée pour harcèlement moral dans sa politique de réduction d'effectifs qualifiée de jusqu'au boutiste. 19 personnes avaient mis fin à leur jour en laissant des lettres accablantes pour leur employeur. France Télécom, devenue Orange, est donc condamnée à l'amende maximale de 75 000 euros. Les anciens dirigeants, l'ex-PDG Didier Lombard, l'ex-numéro 2 Louis-Pierre Venès et l'ex-DRH Olivier Barbereau ont eux été condamnés à 1 an de prison, dont 8 mois avec sursis et 15 000 euros d'amende. Orange a annoncé ce soir qu'elle ne ferait pas appel de la décision. La suite de la grève contre le projet de réforme des retraites. Après l'UNSA ferroviaire, la CFDT Cheminots appellera-t-elle aussi à la trêve pendant les fêtes? Le syndicat est réuni depuis ce matin et sa décision vient de tomber, Anne-Laure Jumet.
Oui, la CFDT Cheminots maintient sa mobilisation et prend rendez-vous pour janvier. Voilà le communiqué de presse qui vient de nous parvenir à l'instant. Le syndicat déplore les contradictions du gouvernement et l'insuffisance des propositions gouvernementales pour garantir les droits des cheminots au statut. Alors un communiqué qui n'est pas totalement clair. Elle maintient sa mobilisation et prend rendez-vous pour janvier, je le disais. On ne sait pas s'il y a finalement une trêve pour Noël. Il faudra éclaircir ça dans les minutes qui viennent. En tout cas, il aura fallu de très longues heures pour se mettre d'accord puisque les représentants de la CFDT Cheminots étaient réunis depuis ce matin en visioconférence avec leurs collègues en région et ils ont mis du temps, semble-t-il, à arrêter cette position commune. C'est peut-être pour ça qu'elle manque un peu de clarté. On comprend en tout cas qu'ils vont rester mobilisés, hein, malgré l'appel à la trêve lancé par le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, malgré aussi l'annonce hier soir par l'UNSA ferroviaire d'une pause. Le syndicat, lui, a dit qu'il y avait de vraies avancées. Les 14 jours de grève ont réveillé le gouvernement, avait-il dit dans un communiqué publié dans l'après-midi. Une position qui agace d'ailleurs une partie de sa base. En Normandie, à Rennes ou encore à Paris, des militants UNSA ferroviaire ont reconduit la grève lors d'assemblée générale. Des initiatives saluées d'ailleurs par le secrétaire général de la CGT Cheminots, un syndicat qui, comme Sud Rail, entend bien maintenir, lui, la pression pendant les fêtes avant de repartir au combat plus fort en janvier.
Merci Anne-Laure Jumet. Ce que l'on sait sur le trafic, hein, concrètement, c'est cette nouvelle mesure. La SNCF met en place des trains spéciaux pour les enfants. On avait beaucoup parlé de ces enfants qui voyagent seuls. 14 TGV seront affrétés dimanche. Cela représente plus de 5000 places. Des trains aller-retour qui desserviront Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille et Strasbourg depuis Paris. Le trafic ferroviaire en général sera très perturbé ce grand week-end de départ en vacances. La direction de la SNCF vient d'annoncer que la moitié seulement des autres TGV sera en circulation. Il y aura également 3 TER sur 10, un intercité sur 4 et un transilien sur 5. La grève à la maison de la radio. Les syndicats ont annoncé la suspension du mouvement à partir de dimanche soir. Une trêve chez nous pour les fêtes de fin d'année. Mais les actions contre le plan de suppression de 299 emplois pourraient reprendre dès le début janvier. La direction de Radio France a proposé l'ouverture de discussions paritaires. Une partie des nouveaux emplois créés pourrait être réservée aux collaborateurs de la maison. Il pourrait aussi y avoir négociation sur de nouvelles mesures qui permettraient de réduire la précarité, notamment celle des nombreux CDD et CDD d'usage dans toutes les chaînes. Des négociations reprendront donc au tout début de l'année prochaine. 150 millions d'euros, c'est l'amende infligée à Google par l'autorité de la concurrence pour abus de position dominante sur le marché de la publicité. C'est tout le système des Google Ads qui est visé. L'autorité exige aussi une clarification des règles de fonctionnement de la plateforme publicitaire. Elles sont jugées opaques, difficilement compréhensibles et surtout appliquées de manière inéquitable et aléatoire. Pour la présidente de l'autorité, le fonctionnement actuel donne à Google un véritable pouvoir de vie ou de mort sur certaines petites entreprises. Et c'est la première fois que le géant du numérique est ainsi sanctionné. Il annonce qu'il va faire appel de cette amende. Après l'affaire Delevoye, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est provisoirement sans président. L'actuel dirigeant de cette autorité administrative indépendante, Jean-Louis Nadal, a quitté ses fonctions mercredi soir et son successeur n'est pas encore officiellement désigné. Alors Anne Fauquemberg, pourquoi est-ce que cette vacance a lieu à la tête de l'institution ?
Eh bien, tout simplement parce que le président de cette autorité administrative, comme toute entité de ce type, est nommé par le président de la République. L'annonce devait être faite cette semaine, mais la personne pressentie, en l'occurrence le président de la Cour des comptes, Didier Migaud, n'a semble-t-il pas obtenu les garanties nécessaires. Le Canard enchaîné laissait entendre indifférent sur la question du salaire mercredi dernier. L'ex-député PS devant diviser par deux sa rétribution en passant de la Cour des comptes, environ 14 000 euros par mois, à la Haute Autorité sur la Transparence, 7 000 euros par mois avec des avantages en nature, dont une indemnité de résidence et une autre de fonction pour un total de 12 000 euros par an. Dans l'entourage de Didier Migaud, on relativise ce soir cette histoire de salaire. En réalité, il aurait simplement voulu avoir des précisions sur ses attributions en lien avec les recommandations de l'ex-président Jean-Louis Nadal, qui avait en effet demandé il y a quelques semaines un renforcement du contrôle des lobbyistes dans la fabrique de la loi et donc une amélioration des informations versées au registre des représentants d'intérêt, un registre géré par la Haute Autorité pour la Transparence à la Vie Publique. Par ailleurs, selon le journal Le Monde, Didier Migaud et Emmanuel Macron se seraient croisés cette semaine à une cérémonie de remise des insignes de la Légion d'honneur. Ils prévoiraient de se revoir au retour du chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Bref, Didier Migaud n'est pas fragilisé, sa candidature serait juste reportée et elle ne serait pas validée avant la mi-janvier. L'Assemblée nationale et le Sénat ayant aussi leur mot à dire, les commissions des lois des deux chambres doivent en effet valider le choix du chef de l'État.
Et de quatre après François Bayrou, Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez, Jean-Luc Benhamias mis en examen à son tour. L'ex-eurodéputé Modem lui aussi mis en examen donc dans l'enquête sur les assistants parlementaires de son parti. Nouveau démantèlement d'un camp de migrants à Calais, c'est la deuxième opération de la sorte en moins de trois semaines. 300 à 400 personnes ont ainsi été expulsées des tentes où ils s'étaient réinstallés, tout près de l'ancienne jungle de Calais. 69 d'entre elles ont été mises à l'abri. Les associations qui viennent en aide aux migrants déplorent une nouvelle opération qui ne sert strictement à rien, disent-elles, puisque les personnes déplacées n'ayant où aller reviennent toujours dans le même secteur. Ils demandent l'installation de centres d'accueil avec des interprètes et des professionnels capables d'orienter les migrants et de les sortir surtout de l'idée fixe de passer en Angleterre. 8 départements restent placés en vigilance orange ce soir en France. 6 départements du sud-est en raison des pluies et des risques de submersion en bord de littoral. Le Vaucluse et la Charente-Maritime sont eux en vigilance orange inondation. Les intempéries ont aussi privé d'électricité 140 000 foyers. Ce matin, les vents violents ont provoqué de nombreuses chutes d'arbres sur les fils électriques. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée par ce coup de vent. Dans la Loire, des écoles ont dû être fermées. Les vents violents et les fortes pluies de la tempête Elsa ont fait aussi 4 morts en Espagne et au Portugal. On y reviendra avec un petit point météo en fin de journal. Emmanuel Macron est attendu d'un instant à l'autre en Côte d'Ivoire pour fêter Noël avec les soldats français. Une visite de 48 heures loin de la crise de la réforme des retraites. Après les honneurs militaires, le président s'adressera aux 1000 soldats de la base de Port-Boué. Il devrait évoquer le récent drame vécu par l'armée française, la perte de 13 soldats de l'opération Barkhane dans un accident pendant une opération anti-djihadiste au Mali, avant de partager avec eux un dîner préparé par le chef de l'Élysée, Guillaume Gomez, avec un menu traditionnel, un pâté en croûte, foie gras, volaille des Landes aux morilles, fromage de toutes les régions de France et pour finir, un gâteau au chocolat et des mandarines corses, apprend-on. Demain, Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara relanceront le chantier de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Elle veut devenir un centre de formation pour toute l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, je vous le rappelle, a été durement frappée il y a 3 ans avec l'attaque de la station balnéaire de Grand Bassam qui avait fait 19 morts. Le vote sur le Brexit sera emballé pour Noël, promet Boris Johnson. Les députés britanniques entament aujourd'hui l'adoption de l'accord de sortie de l'Union européenne qu'il a négocié, un texte qui avait été rejeté plusieurs fois. Mais cette fois, le Premier ministre dispose d'une large majorité grâce à sa victoire électorale. La semaine dernière, une large victoire. C'est donc une journée historique, Marie-Pierre Vérot.
Après 3 ans d'atermoiement, de psychodrame, de débats houleux aux communes, 2 élections législatives, 3 votes des députés députés contre l'accord de sortie de l'Union européenne. Voilà donc le nouveau Parlement qui vient d'entériner le projet de loi de sortie de l'Union négocié par Boris Johnson par 358 voix contre 234. Le Premier ministre avait appelé les députés à s'unir pour, je le cite, « écrire un nouveau chapitre de l'histoire britannique, bâtir de nouvelles relations avec nos amis européens dans un esprit d'unité ». Demandant que les plaies ouvertes par ce référendum de 2016 soient refermées. Sans surprise, le Parti travailliste a voté majoritairement contre un texte dangereux, a dit Jeremy Corbyn, le toujours patron du Labour qui devrait quitter son poste dans quelques semaines après la défaite historique de son parti, a lui mis en garde contre la voie qui s'ouvre désormais vers une dérégulation accrue, un accord toxique avec Donald Trump, mettant en péril le système national de santé britannique, un texte qui n'apporte aucune certitude aux travailleurs et renforce, a-t-il dit, le risque d'une sortie sans accord l'année prochaine. C'est également la crainte des Européens, puisque cette loi empêche toute prolongation des discussions au-delà du 31 décembre 2020, ce qui ne laisse qu'un an pour écrire les nouvelles relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, ce qui est très peu. Cette loi inquiète aussi à gauche car elle ne prévoit plus de préserver les droits des travailleurs britanniques. Ils feront l'objet d'un texte à part négocié avec les syndicats. Enfin, elle autorise les tribunaux à revenir sur la législation européenne. Comme promis, Boris Johnson a donc obtenu ce premier vote avant Noël. De nouvelles journées de débats sont prévues aux communes en janvier avant un vote de ratification finale qui lancera donc le compte à rebours du départ de l'Union dès le 31 janvier 2020.
En Syrie, de violents affrontements ont fait une centaines de morts aujourd'hui dans le nord-ouest du pays, dans une zone contrôlée par les djihadistes. L'aviation russe qui soutient les forces du régime pilonne en ce moment même les zones alentours. En dépit de la trêve annoncée par Moscou, les bombardements et combats au sol ont déjà tué plus de 250 civils depuis la fin août et plus de centaines de combattants des deux camps selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un mot de météo avec de la pluie encore ce soir sur la moitié ouest du pays et sur les Alpes. Des orages sont attendus sur la Manche et le Pays de la Loire. Demain matin, le ciel sera un peu plus ensoleillé, même s'il pleuvra encore sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est, les Alpes et la Corse. Les températures, elles s'établiront de 4 à 16 degrés. Il fera 5 à Strasbourg, 9 à Paris, 13 à Hyères et 16 à Ajaccio. Il est 18h12 sur France Culture. Dans quelques instants, la suite de vos programmes avec l'heure du débat.